Le retour de Radio X.
En vacances.
Radio X.
h 14 minutes, vous écoutez le retour de Radio X. On est ensemble jusqu'à 18h. Jordan, Mel et Louis qui sont avec vous autres en attendant le Carbo Show. DH, on a eu la question, on a dit, « Yo, DH, en vacances, inquiétez-vous pas, il va bien. Son derrière va bien, parce que l'année passée, son derrière n'allait pas bien. Mais là, tout est sous contrôle. Il sera de retour à compter du 10 août prochain. » Bien content de retrouver à nouveau le sergent détective à la retraite du service de police de la Ville de Québec qui a été déclaré témoin expert par les tribunaux provinciaux fédéraux en matière de procédure d'interprétation du langage codé, etc., etc. Mais aussi auteur d'un livre co-écrit avec la criminologue que vous connaissez sur les ondes de Radio X, Maria Mourani. On discute avec Roger Ferland. Salut Roger, comment ça va?
Salut Jordan, ça va très bien mon cher.
Yes, hey, je vais prendre le temps d'en jaser deux secondes parce que je pense qu'on ne l'a pas vraiment fait dans le retour, du moins ça doit faire un bout. Là. Mais en 2022, tu as sorti l'ouvrage avec Maria Mourani, la fameuse opération Scorpion, une histoire qui s'est étalée sur 4 ans. Tu as fait partie de ce grand réseau d'enquête-là qui était de démontrer l'existence d'un réseau de prostitution juvénile à Québec après de nombreuses et de nombreuses plaintes de parents, notamment. Puis tu sais, juste écrire le livre, ça a pas dû être facile pour toi, Roger, là, de se replonger dans ces souvenirs-là qui devaient être un peu particuliers des bouts. Là.
Ça a été même compliqué.
Ouais.
Si Maria n'avait pas été une personne qui est très courageuse et qui a insisté beaucoup, façon de parler, là, mais positivement, là, de ouais. dire, regarde, on va le faire ensemble, on va prendre le temps qu'il faut. Fait que je suis allé avec ce que je possédais comme notes et ce que j'avais comme mémorisation du dossier. Mais ça a été assez compliqué. Mais positif et nécessaire à faire à un moment donné. Je te dirais, ça m'a même permis de expier une petite partie un peu, là, tu sais, de prendre le temps de le remettre sur papier, de l'écrire, de faire attention à ce qu'on écrivait aussi encore là, parce que, tu sais, tu l'as bien dit, j'étais, quand on a starté ça, ça devait être un dossier de 3 mois à peu près, là.
Ouais.
Puis ça a pris plus que 4 ans de ma carrière pour finir ça, et même les procédures civiles que ça avait entamé. Mais après 3 mois, je veux dire, au début, quand on m'a demandé ça, il dit, garde en bague, on a dessus, faites-nous donc juste s'il y a des gangs de rue à Québec. Mais les premiers parents à qui on a parlé, ça faisait une dizaine de personnes d'enquêteurs qui comptaient une partie de l'histoire et que personne n'arrivait à aboutir avec ça. Fait que ça a été beaucoup de travail. On a repris des méthodes différentes un petit peu, été rigoureux dans notre prise de notes, rigoureux dans notre façon d'enquêter pour arriver à faire la démonstration qu'on a faite. Puis on a utilisé, grâce au procureur de la Couronne qui nous ont appuyé là-dedans, des moyens d'enquête qu'on n'a pas utilisés souvent dans ça, soit l'écoute électronique, et à peu près tout ce qu'on avait comme possibilité, filature, agent double, agent d'infiltration.
Okay.
Mais à la fin, on a réussi à en faire condamner 43 sur 44.
Ben, ce qui est énorme, là, c'est un ouais. franc succès comme pour enquête comme ça.
Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est la première fois, en fait, aussi, qu'on s'attaquait aux 3 volets en même temps. Tout souvent, on sort les petites filles de là, ou les petits gars, dépendamment, puis c'est tout. Tu sais, on le dit, OK, qu'ils font de la prostitution. Mais là, on a réussi à regarder ça autrement sur un autre œil un peu. Moi, j'ai dit, si tu veux travailler en vraie résolution de problèmes, il va falloir que tu attaques le volet sur d'autres fronts. Il va falloir qu'on... Et oui, les clients aussi, il faudrait qu'on arrête parce que c'est eux qui font la demande. C'est eux qui font que le système-là fonctionne. Puis, tu as les proxénètes qui fabriquent. Fait que les proxénètes, eux autres, font de l'argent avec ça, profitent des jeunes. Il y a des clients qui font la demande. Fait que ça fait une roue qui continue permanente là-dedans après ça. Puis que, tu sais, il en reste encore, mais c'est différent, puis je pense qu'on devrait pas attendre d'avoir tout un réseau, mais t'as 1 ou 2 cas, arrêtez-moi ça tout de suite, puis stoppez-moi ça de là, parce que c'est nos enfants qui sont pris là-dedans.
Absolument, puis Opération Scorpion, c'est début des années 2000, dans le coin de 2002,
ouais.
là, le fléau de la prostitution juvénile, évidemment que ça va toujours exister, mais ça a changé depuis. J'imagine que t'as d'anciens collègues ou des collègues qui travaillent encore dans le métier. Avec le phénomène des réseaux sociaux et tout ça, ça a quand même dû changer, puis ça doit être moins évident aussi des fois. Là.
Ben, ça a changé sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, vois-tu, ça a permis, la démonstration qu'on a faite a permis d'arriver à monter des équipes permanentes maintenant qui sont là. En disant, si on travaille ça juste de façon sporadique, on n'arrivera jamais à le régler. Puis si on n'est pas très capable de travailler en équipe dans la province, on n'arrivera à rien. Fait que là, maintenant, vous avez l'équipe intégrée de la lutte au proxénétisme. On appelle ça toujours EILP, là. Bien, qui travaillent. Fait qu'il y a des policiers d'un peu partout en province qui sont prêtés à ces escouades-là puis qui travaillent communément. Par contre, l'autre réalité, c'est qu'avant, ben il fallait que les gars qui recrutaient ces filles-là allaient les chercher sur le bord des terrains sportifs, les places commerciales, où ce qu'ils allaient les chercher. Là, en ce moment, les médias sociaux ont ouvert la porte vraiment beaucoup à ça. C'est triste, mais des fois, les jeunes filles, en allant sur Instagram, TikTok et tous ces sites-là, s'offrent quasiment gratuit. Puis après ça, les gars ils le font croire qu'ils sont des filles ou qu'ils sont quelqu'un qui vient là pour les aider, mais qui va les appâter puis qui les amène là-dedans. C'est pour ça que ça serait important que les parents soient conscients de ce qui se passe sur les médias sociaux en ce moment, qu'est-ce qui se véhicule, qu'est-ce que les jeunes vont voir le soir, et de ne pas les laisser faire n'importe quoi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sollicitations qui est faites en ce moment, de cette façon-là, de façon anonyme, mais qu'après ça, les gens, les gars, les filles s'identifient, puis après ça, ils sont trappés puis appâtés là-dedans. Puis encore là, toujours, au final, la peau du gain, l'impression ben oui. qu'ils vont faire de l'argent rapidement, puis vont devenir une star de je sais pas quelle entreprise là, qui le promette, mais c'est toujours comme ça un peu que ça se fait. Puis c'est pour ça qu'il faut être capable de prendre le temps de bien encadrer nos enfants là-dedans, puis de leur parler, puis on n'a même pas de reste, je peux te dire, après.
Ah ouais, puis des fois, ben écoute, on se porte un petit OnlyFans sur le fly, puis des trucs comme ça, mais le problème, c'est que tu as des filles des fois, puis ça peut être des gars aussi, mais il y a plus de filles qui sont touchées par ces histoires-là, qui à un moment donné décident de fermer ça, ou tu sais, ils ont eu des problèmes, histoire de proxénétisme et tout ça, on décide de regarder en avant, puis ce qu'on a fait sur les internets et tout ça, ben on veut plus en entendre parler, mais le problème, Roger, c'est que ça va rester ces images-là, des fois, j'ai vu des affaires d'actrices porno qui ont décidé de tout barrer, mais écoute, tu peux en trouver à la tonne des anciennes images et tout ça sur les internets.
Ça, c'est un problème en ce moment. Effectivement, à partir du moment où tu vas dans ces domaines-là, puis que tu mets tes images sur Facebook, ça devient jusqu'à une limite publique.
Ouais.
Puis ton expectative de vie privée, ce que tu dis, c'est mon droit, un peu, tu viens d'en perdre une bonne partie de tes droits.
Mais oui, et on accepte ça dans les termes et conditions, dès qu'on utilise les réseaux sociaux.
Exactement, Mel, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a toute une partie là-dessus qu'il faut avoir du recul en ce moment, puis où on parle même pas des nouvelles applications, où est-ce que même si tu n'as rien fait de compliqué, tu as mis une photo de toi, on peut prendre la photo et d'imaginer, de faire semblant qu'on te déshabille et que là, il y a des applications là-dessus, encore là. Puis, c'est plate, mais nos jeunes sont souvent bien conscients de ça, que ça existe, alors que les parents sont même pas au courant encore de ces jours-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail en ce moment en prévention qui est important de faire. Tu disais tantôt, nous autres, on a travaillé le réseau des filles, mais les réseaux de petits gars sont là aussi. Le réseau de petits gars, par contre, il est dur à dénoncer parce que très souvent, le gars va se ramasser à pas nécessairement faire de la prostitution avec des madames, mais avec des messieurs. Alors là, ça le fuck un petit peu dans sa tête. Il était peut-être pas en tout homosexuel, mais là, à cause de ça, il y a des relations pour hébergement, pour avoir de l'argent, pour payer sa dope, peu importe, avec des hommes. Mais après ça, il y a beaucoup, beaucoup de misère à dénoncer parce que temporairement, il a comme foqué sa sexualité, alors que c'était pas ça du tout qu'il visait, mais il a embarqué dans le piège lui aussi.
Et je sais pas si tu as vu passer, là, il y a un cas notamment là, à Montréal, où une maman a réalisé que les photos qu'on met de nos enfants sur les réseaux sociaux, il y a un marché noir sur le dark web. En fait, il y a des gens qui mettent les têtes à prix. Là, la petite fille était recherchée dans le but d'être kidnappée et vendue sur le marché noir. Est-ce que c'est quelque chose qui est en augmentation? Est-ce qu'on en voit de plus en plus ou c'est quand même encore là?
Plus isolé.
Oui, c'est ça, ouais. Des cas isolés. Là.
C'est des cas isolés, mais il y en a quand même encore, puis il y en a trop. C'est des situations, en fait, je te dirais qu'en ce moment, ils sont traqués un peu. La cyber. Il y a de la cyber-enquête qui se fait en ce moment. Puis les personnes ne sont peut-être pas nécessairement ici au Québec quand elles le font. Mm-hmm. Mais il y a en ce moment du travail qui est fait parce que oui, ça existe, hein, cette façon de le faire. Tu sais, si vous avez jasé avec Maria à quelques reprises, Maria est assez claire, là, tu sais, le Québec, on était une des plaques tournantes les plus populaires pour avoir ça. Ou est-ce que tu es capable de te faire livrer une fille quasiment comme tu livrerais une pizza, là, tu sais, aussi clair que ça. Là.
Une mineure, là.
Mineur, tout simplement. Puis tu vas avoir ce que tu veux, comme tu veux, puis même la couleur des cheveux, à la limite. C'est banal, mais ça l'est pas. Tu te dis, voyons donc, ça n'a aucun sens. Fait qu'on n'a pas à s'enorgueillir de ça du tout. Moi, je me trompe, les sièges sociaux, c'est à Montréal.
Oui, absolument.
T'sais, fait que toi, tu sais, on regarde beaucoup de choses en ce moment. On a assurément facilité certaines lois et règlements qui permettent à ces gens-là de le faire. Ils ont beau dire qu'ils encadrent ça, puis qu'ils vérifient l'âge des gens. je peux te dire qu'il y a une chose qui est là, qui existe, c'est vrai, mais le dark web, il est très populaire à côté. Puis quand tu veux trouver, je peux te dire que tu trouves. Puis c'est même, quand tu te mets à gratter ça, c'est un peu dérangeant parce qu'il y, y en a quelques-uns qui consomment de la pornographie infantile en temps réel, plus qu'on peut penser.
Tu parlais de consommation, on va aller dans la drogue cette fois-ci. Gros dossier hier, on en jasait dans le Journal de Québec. Selon plusieurs organismes communautaires, le crystal meth est en train de devenir la drogue de choix dans la capitale nationale, surtout chez les personnes évidemment en situation d'itinérance. Pourquoi? Parce qu'elle est peu coûteuse, et facile à trouver. Les effets qui peuvent durer des heures et des heures, hein, 8-12 heures, c'est pas plus des fois. Les intervenants disent que certains consommateurs l'utilisent même pour rester éveillé toute la nuit. Tu marches là, pendant des kilomètres, ça coupe la faim, même le froid, quand on n'a pas d'endroit pour dormir. Puis il y a la Dauphine qui vient en aide aux jeunes de la rue. Les commandes de pipes qui servent à consommer du crystal meth, ça a explosé dans les dernières années, juste en 2024-2026. On dit qu'avant, c'était quoi? C'était 10 000 en 2025. On est passé à 17 200 en un an. Puis après ça, ça a augmenté à 30 000 l'année suivante. C'est complètement fou. Puis j'entendais mon collègue Max hier midi apporter une bonne réflexion là-dessus. Parce que là, on distribue des pipes actuellement pour ces maisons-là qui viennent en aide aux jeunes. Mais est-ce que tu contribues un peu au problème, même si tu veux le contrôler davantage?
Ça, c'est la partie, je te dirais, qui m'a passionné quand je l'ai lu comme ça hier dans le journal aussi, moi aussi. Je trouve ça, je comprends, quand c'était les seringues, qu'on a voulu encadrer. Je comprends le programme de la méthadone, qu'on a voulu que les gens qui étaient sur l'héroïne modifient ça, puis qu'on les a amenés des endroits contrôlés, des endroits supervisés, où est-ce qu'ils peuvent le faire en sécurité, parce que sinon, ils vont le faire à gauche, à droite, s'ils sont vraiment toxicomanes avancés. Puis, ils vont perdre la vie, puis il n'y aura personne à côté d'eux. Le principe du naloxone, tu comprends, c'est également aussi positif en ce sens-là. Mais là, on est rendu jusqu'au haut, un peu. Là, on veut le faciliter, la consommation, ouais, si je comprends bien. Ouais. Là, tu le fournis la pipe, parce que sinon, ils ne l'ont pas pour le faire. Bien, il ferait autrement, il ferait d'autres choses, là, j'ai envie de te dire. Jusqu'où on va aller? Parce que je veux bien qu'on fasse une partie prévention, mais là, j'ai l'impression qu'on ne nourrit pas du bon côté. Meilleur exemple qu'on peut se donner, là, regardez ce qui se passait à Vancouver. Il avait décidé de décriminaliser toute substance en bas de 2,5 grammes, peu importe les produits confondus. Et là, depuis 5 janvier 2026, là, ils ont resserré la vis. Ils vont même devenir la ville la plus sévère, je te dirais, peut-être au Canada, en disant non, on revient à tolérance zéro, parce que là, ça a fait une montée radicale. Fait qu'à partir du moment où tu veux légaliser ou dire on va tolérer, ça n'a pas de sens, tu vas te ramasser avec un autre problème, parce que à la base, la consommation de stupéfiants ou de drogue, ou que ce soit sur le sexe ou le jeu, c'est une gestion des émotions que les gens arrivent mal à gérer. Puis, en leur facilitant ça, puis, ben, tu nourris cette pensée-là. Je sais qu'il y a deux écoles de pensée là-dessus. Beaucoup de centres de prévention vont dire, de toute façon, ils vont le faire, on peut-tu les encadrer? Puis, si on est trop loin des grands centres, ben, ils n'iront pas, fait qu'ils ne prendront pas la bus pour aller là. Je le comprends, c'est vrai, mais qui veut ça dans sa cour en ce moment? Je pense qu'on devrait commencer à regarder le problème autrement, là. C'est toutes nos taxes qui payent ça, toute la gang, là.
Exactement.
Ben, j'aimerais ça l'investir ailleurs en ce moment, parce que là, je sens qu'on leur en donne pour le faciliter la consommation. Puis après ça, on va les revoir dans la rue en train de faire des incivilités, même si c'est pas toujours des drames terribles. Ben, excuse-moi, là, d'avoir quelqu'un qui est à ma porte, qui fait ses besoins dans ma porte, puis qui dort là soir et matin, je suis pas sûr que c'est le fun, puis c'est ça que j'aimerais avoir dans le bloc appartement où j'habite en ce moment. Là,
on dit que le réseau de la santé, les organismes, là, ils ont les ressources nécessaires, mais tu as un bon point. C'est parce qu'à un moment donné, c'est la consommation. Si tu passes de 30 000 pipes à 60 000 pipes l'année d'après, puis à 70, à 90, à 100 000 pipes, à un moment donné, tu pourras plus fournir, puis ça va finir comme dans les grands centres, parce que Québec est malgré tout un grand centre. Fait qu'à un moment donné, tu n'auras pas le choix, puis tu vas perdre le contrôle sur les consommateurs.
C'est ça, exactement. Puis, tu sais, je l'ai vécu à l'époque, au moment où on a fusionné, là, on s'est mis à travailler tous ensemble, les policiers dans les escouades, là, tu sais. Mais j'étais découragé, moi, d'arriver le premier du mois, puis même c'était la veille, souvent, que les chèques étaient émis, là. On faisait une frappe pour une descente de drogue dans un point de vente. Les gens venaient quand même cogner à la porte quand ils savaient que les policiers étaient là, ces lieux. Ils nous suppliaient en nous tendant leur argent pour avoir encore du stock. Là, j'étais découragé. Je dis, voyons, les gars, faites de quoi? Puis, Roger, c'est le droit. Il dit, on n'a pas à gérer ça. Non, mais un peu. Ils font ça avec le chèque de l'aide sociale. Je comprends bien que c'est pas tout le monde qui fait ça, là.
Il y en a quand même.
Il y en a, il y en a trop. Puis, fait que c'est pour ça. Puis là, j'ai dit, on devrait peut-être gérer pour être sûr qu'il y a un hébergement, qu'il y a de la nourriture, qu'il y a pas d'autres choses. Là, on me disait, Roger, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est de les arrêter, toi. Je dis, oui, oui, oui. Je veux bien les arrêter, mais là, on court après notre queue, là. Tu sais, on vire en rond, puis on va redonner l'argent. L'argent retourne dans le milieu de la drogue. Puis finalement, ben, on fait rien que nourrir ce système-là. C'est pour ça que je ne pas que c'est uniquement les arrestations qui en viennent à bout, mais il va falloir penser vraiment prévention puis retravailler des choses. Mais il se fait beaucoup de choses à Québec positives, là. Mais quand j'apprends ça, qu'on fournit autant de pites que ça, ben, j'ai dit, Caroline, il y a consommé autrement le drogue, là, ils feront d'autres choses, là. Là, c'est pas vrai que je vais aider, faciliter puis tolérer en plus. Je trouve que là, c'est trop, là.
On parle quand même de cristal meth, là. On n'est pas dans une drogue récréative comme le cannabis qui a été légalisé depuis 2018, soit dit en passant. Puis, tu sais, on associe souvent cristal meth à l'itinérance, mais il y a des spécialistes qui disent que ça touche vraiment toutes sortes de gens à cette nouvelle drogue-là. Est-ce que progressivement, le cristal meth est en train de remplacer la cocaïne qui est rendue extrêmement chère et que les gens, des fois, peuvent juste plus se payer?
Hélas, en partie, oui, parce que si tu n'es pas capable de t'offrir une dose à 20 ou 25 parce que là, ils ont baissé la quantité de produits dans la cocaïne qu'ils vont avoir sur une mise en main, mais que tu es capable de t'offrir des pilules de la méthamphétamine ou du cristal meth directement que tu te tends un petit cristaux pour le consommer dans une pipe pour quelques dollars, 5 ou 10 dollars, et que tu bosses pour plusieurs heures, ben je peux te dire que oui, c'est plus intéressant parce que il tombe plus longtemps sur le fait d'une dose de psychotrope. Là, mm-hmm. Fait que oui, effectivement, c'est malheureusement une drogue addictive pour les gens qui sont en difficulté en ce moment, psychologique, financière. C'est pour ça que je me dis, on devrait travailler le problème autrement. Mais il ne se travaille pas juste par la police. Là. C'est un problème de santé publique, ça, là, majeur, je te dirais.
Puis là, ben, le SPVQ, tu parlais de saisie tantôt, ils en ont saisi plus de 163 000 comprimés juste depuis janvier 2025. Fait que là, on dit que c'est oui. Trois fois plus qu'au cours des deux oui. dernières années. Est-ce oui. qu'il y a plus de trafic ou juste le SPVQ fait plus la job, plus de saisie?
Non, tu n'as plus sur le terrain en ce moment. Okay. Il s'en fait... s'il y a de quoi, même les escouades qui travaillaient beaucoup sur les stupéfiants ont été réaffectées ces derniers mois avec tout ce qui s'est fait, là, les escouades malsains puis les autres escouades, parce qu'il y avait de la violence beaucoup sur le terrain puis toute la prévention des armes à feu. Fait que, il s'est peut-être pas fait même autant de perquisitions qui se faisaient dans le type uniquement stupéfiant. Mais à cause des perquisitions qu'on fait sur le terrain en arrêtant des gens qui étaient des gens qui font des home invasions, qui fomentent la violence à Québec, à chacune des endroits, ils trouvaient des produits comme ça. Fait que donc, on voit que le réseau est en train en ce moment d'avoir en main plus de cristal meth que ce qu'il y avait, ce qu'on n'avait pas avant. Parce que ça, c'est pas ça nécessairement qui a été ciblé dans les opérations, mais on devrait commencer à le cibler parce que c'est vraiment un produit hautement toxique puis qui amène... C'est des produits qui empoisonnent le corps complètement. Fait que c'est sûr qu'après, à moyen terme, à court terme, tu as l'impression que tu bosses, mais c'est parce que tu t'empoisonnes, puis à moyen terme, ben, ton corps se détruit de plus en plus. Il n'y a rien de positif à utiliser ça, mais il n'est pas cher, il est facile à fabriquer pour certains laboratoires, puis tu n'as pas besoin de l'importer parce que tu pars avec des produits qui sont ici, que tu es capable d'avoir.
Puis côté drogue et tout ça, évidemment, on en voit plus. C'est plus facile s'en saisir dans la rue. Mes collègues Gary puis DH qui animent le retour, qui est allé se promener, ça prenait quoi, 2-3 minutes. T'arrivais dans Saint-Roch, tu pouvais t'en procurer assez facilement. Puis tu parles de cristal meth, tu parles de ces drogues-là qui scrapent le corps littéralement. Est-ce que c'est avec l'arrivée massive des gangs de rue des dernières années qu'on distribue ça, puis côté moral, côté éthique, c'est pas vraiment un problème pour eux autres d'en distribuer versus avant où... Oui, tu avais les Hells et tout ça, mais il y a quand même une certaine structure.
C'est multifactoriel, mais mon principal point souvent que je trouve, c'est la tolérance qu'on a eue, Jordan, puis gang là-dedans, c'est la tolérance qu'on en a faite. Là, on est en train de resserrer la vis. C'est pour ça que je ne veux pas dire seulement le gouvernement fédéral libéral, parce que là, M. Carney est en train de reprendre des idées qui étaient un peu à gauche et à droite pour resserrer le système. Mais mettons que les décisions sur l'air de M. Trudeau, ce qui s'est fait, on est loin d'avoir amélioré notre sort. On a loussé au maximum tout ce qu'on pouvait. On a décriminalisé beaucoup d'endroits. On a retiré des argents qu'on donnait dans les centres carcérales. Il y a beaucoup d'actions qui se sont faites puis qui ont été en diminuant. Alors, en ce moment, il y a comme une tolérance qui s'est apportée là-dessus. Mais cette tolérance-là, ça amène une problématique dans la rue, sur le terrain. C'est ça qu'on oublie dans l'équation, là, tu sais. Oui, ça a l'air qu'on fait moins d'arrestations. On va vite un peu, c'est parce qu'on prend pas le temps de les arrêter. Avant, on faisait un petit peu plus le ménage. Là, on n'a pas le temps de faire le ménage. Fait qu'en faisant pas de ménage, ben ça se ramasse que t'es là sur le terrain. Puis je te dirais pas qu'on les ramasse par accident, ces arrestations-là, mais quasiment en ce moment-là. Mm-hmm. On va essayer de suivre, mais ça demande une décision opérationnelle de la part des directions des services de police. Ça demande du budget. Puis c'est beaucoup de travail d'enquêter des réseaux de trafiquants. Fait que c'est pour ça que des fois, on aime mieux investir à gauche plutôt que l'investir à droite.
On nous parle de la qualité de la cocaïne. Il y a un auditeur qui nous mentionne ça, qu'elle est moins bonne qu'elle l'a déjà été. Fait qu'il y a des gens qui vont switcher pour le cristal meth. Puis il n'y a pas vraiment de labo de coke ici. Puis on s'entend que faire de la méthamphétamine puis tout ça, c'est pas bien ben compliqué. Le faire du cristal meth et compagnie, on peut fabriquer ça d'un sous-sol.
C'est ça, exactement. C'est pour ça, tu sais, souvenons-nous à une époque, les Rock Machines, par exemple, d'un bout de temps, avaient le contrôle du PCP. Mais s'il y avait le propre laboratoire de fenciclizine, ils arrivaient à le fabriquer eux-mêmes. Fait que c'était un anesthésien vétérinaire qui était même plus bon pour être utilisé par les vétérinaires qu'eux autres ont ramené sur le marché. Mais il y a quelqu'un qui le fabriquait. Mais il n'y avait pas besoin d'importer des produits pour le faire. La cocaïne, quand elle rentre au pays, on n'est pas des producteurs de coca. Fait que t'es tout obligé de passer par des routes qui existent. Le fentanyl, oui, on a entendu M. Trump s'en plaindre, mais il y en a aussi de l'autre bord. Là. C'est pas vrai qu'il vient juste d'ici, là, mais c'est encore là. C'est toutes des choses qui sont à contrôler. Mais si tu n'arrives pas à l'avoir, la méthamphétamine, c'est facile. C'est pas si facile que ça, là, ça te prend un chimiste, mais c'est facile. C'est plus facile à fabriquer. Puis t'as pas besoin, tu pars pas d'une plante que tu as fait pousser pendant quelques mois pour avoir.
Non, c'est ça, absolument. Mais écoute, Roger, merci beaucoup de ton temps. Puis c'est un phénomène grandissant. On va surveiller ça, puis on va assurément s'en reparler dans les prochaines semaines dans le retour. Merci beaucoup.
Totalement. Bonne journée à vous autres.
Bye-bye. C'était Roger Ferland, ex-sergent détective, qui est à la retraite depuis une couple d'années, mais qui était pendant une trentaine d'années au SPVQ. Écrit un livre, j'en parlais tantôt, là, sur l'opération Scorpion avec Maria Morani. Vous irez lire ça. C'est un petit chef-d'œuvre. Vous écoutez Le Retour avec Jordan Malilou. On fait une pause. On revient 16h35.
Le Retour de Radio X.
Radio X.